Je salue aussi nos amis de Tzigane, d'une manière particulière parce que je dois reconnaître que quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quelques années seulement, quand j'étais adolescent, ça fait un peu plus longtemps, avec mes parents nous allions tous les ans à la Convention nationale Tzigane. Comme j'étais jeune, j'écoutais autant la musique Tzigane que j'aimais beaucoup et la prédication qui me faisait beaucoup de bien. Donc je salue mes amis en reconnaissance ce que le Seigneur nous a apporté dans notre famille par la mission Tzigane. Je salue aussi Stéphane, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai des amis communs que vous connaissez tous, Rosemet et Patrick. Nous avons lu cet après-midi ce texte et vous dites peut-être c'est un texte un peu particulier. C'est un texte qu'on pourrait dire, mais je dis bien on pourrait dire, qu'il marque un échec dans le ministère de Jésus. Je dis bien, on pourrait dire. Je vais doucement. Et c'est un peu sur les raisons de ce qui pourrait paraître comme un échec, mais ce n'en est pas un. Pourquoi ? Parce que vous savez que tout dans la vie de Jésus porte la marque de Dieu. Tout ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre porte la marque de la présence du Saint-Esprit avec Jésus. Et cette marque, d'ailleurs, nous la voyons à la fin du texte, lorsqu'il est dit au verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Je vais dire quand même, si Jésus ne fait que quelques miracles, ce sont toujours quelques miracles. Tous les hommes, d'ailleurs, pardon, aucun homme n'est capable de faire des miracles. Donc, c'est pour cela que je dis, ça pourrait passer pour un échec, mais ça n'en est pas un, et c'est justement sur la raison pour laquelle quelques personnes seulement, mais quelques personnes quand même, ont été guéries par Jésus, quelques personnes ont cru en lui, et la plupart n'ont pas cru. C'est sur cette chose étonnante dans le ministère de Jésus que j'aimerais que nous nous penchions cet après-midi. En effet, Jésus, vous le savez, avait grandi dans la ville de Nazareth, au nord d'Israël. Il n'était pas né à Nazareth, il était né à Bethléem. La Bible, à l'âge de 2 ans, était parti pour Nazareth. C'est là qu'il a grandi. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, je crois, les habitants de Nazareth, quand ils ont vu Jésus revenir, ça faisait pas longtemps qu'il était parti. Jésus était parti de Nazareth depuis quelques mois seulement. Et puis il avait commencé, comme vous le savez, à faire des miracles. Dans l'évangile de Jean, chapitre 2, il nous est dit que pendant la fête, Jésus avait fait un certain nombre de miracles. Et puis après, il est remonté, parce qu'il est allé vers le nord. Hein, quand on va vers le nord, on dit toujours monter. Et quand on descend, quand on va vers le sud, on descend dans le sud. Bon, des fois on monte aussi pour aller au sud, hein, mais ce sont des expressions. Alors Jésus est monté avec ses disciples au nord, dans la ville de Nazareth où il avait grandi. Et c'est là que nous lisons ce texte, nous l'avons lu tout à l'heure, et nous pouvons être étonnés à première vue. Pourquoi ? Et c'est cela que j'aimerais sur cela que nous nous interrogions cet après-midi, avant de conclure avec une note d'espoir, parce qu'avec Jésus il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une solution, il y a toujours des lendemains qui sont glorieux. J'aimerais que nous nous interrogions d'abord, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas été reçu avec une grande foi dans la ville où tout le monde le connaissait. Tout le monde connaissait Jésus à Nazareth. Nazareth, à l'époque, n'était pas une grande ville, il y avait peut-être 4-5 000 habitants. J'habite moi-même dans un village de à peine 3 000 habitants, et vous savez, il ne se passe jamais rien d'exceptionnel dans le village sans qu'on le sache tout de suite. Quand vous habitez dans une grande ville comme Paris, il peut arriver quelque chose dans votre immeuble, tout Paris ne le sait pas le jour même. Et je dirais même 30 ans après, tout Paris ne le sait pas. Mais dans un village, c'est différent. Jésus avait grandi à Nazareth, et tout le monde connaissait Jésus. Enfin, tout le monde connaissait un certain Jésus. Et c'est là toute la différence. Lorsque Jésus a commencé à prêcher dans la synagogue ce jour-là, pourtant ce n'était pas la première fois que Jésus entrait dans la synagogue de Nazareth. Il y était entré encore récemment, pour nous, il y a quelques mois, avant de partir pour son ministère public. Il entrait dans la synagogue toutes les semaines, régulièrement, en tout cas tous les vendredis soirs, pour le service le plus important de la semaine. Et peut-être que de temps en temps, il avait lu aussi un texte, puisque les hommes, à tour de rôle, pouvaient lire un texte. Personne ne s'était posé de questions. Qui c'était Jésus ? C'était d'abord, ça avait été, dans les premières années, un petit garçon, je crois quand même très sage. On ne peut pas imaginer Jésus turbulent. Jésus était très sage, il nous a dit qu'il était soumis à ses parents, qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il rendait un bon témoignage, c'était un enfant très sage. Vous savez, ça existe les enfants très sages. Est-ce que vous avez été très sage quand vous étiez enfant ? Yannick, levez la main, ceux qui étaient très sages. Il n'y a pas de honte à être très sage. Hein. Ma mère disait, quand j'avais une vingtaine d'années, « Quand tu étais petit, tu étais très sage. » Comme si, une fois devenu grand, je l'étais moins. Bon, le Seigneur m'a aidé depuis. Et puis, Jésus était un enfant sage. Il jouait sans doute avec les autres enfants du quartier, avec les autres enfants après le service à la synagogue, et il avait grandi. La Bible dit qu'il avait même appris un métier. Vous savez quel métier avait Jésus avant d'être prédicateur, entre guillemets? Vous savez quel métier exerçait Jésus? Oui? Non? Charpentier. Mais oui, il était charpentier, il n'était pas plombier. Il était charpentier. C'est la Bible qui le dit, c'est l'Évangile qui le dit. Il était le fils adoptif du charpentier qui s'appelait Joseph, c'est peut-être le seul charpentier de la ville, et lui-même avait appris un métier, puisque chez nos amis juifs, en tout cas à l'époque c'était comme cela, le garçon devait toujours apprendre un métier. Il fallait apprendre un métier et il fallait apprendre à connaître Dieu. Deux buts qui sont pas mal que ça dans la vie. Apprendre à connaître un métier et apprendre à connaître Dieu. C'est un beau programme. Jésus était donc devenu, c'est dans les autres évangiles que cela est écrit, il était le fils du charpentier et il était lui-même charpentier. Les gens de Nazareth ne connaissaient Jésus que sous ce regard-là. Pour eux, c'était un jeune de la ville, c'était un Nazaréen, c'était un homme que tout le monde connaissait et c'était le charpentier. Mais comme vous le savez, un charpentier... En principe, un charpentier normal ne peut pas sauver le monde. Il peut à la limite construire de beaux meubles, de beaux bancs comme ceux qui sont ici, de beaux balcons, de belles portes, de belles charpentes. Un charpentier, ça fait des charpentes aussi. Et puis c'est tout. Jésus n'était pas qu'un charpentier. Comme vous le savez, quand il est descendu à Jérusalem, il s'est aussi rendu près du Jourdain, quand Jean-Baptiste baptisait, et il s'est fait baptiser pour obéir à Dieu. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, il n'avait pas besoin d'être sauvé, il était le Fils de Dieu, il avait été rempli du Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit dans le Jourdain, au moment où il sortait de l'eau, et puis il a commencé son ministère. Vous savez que les premiers aspects intéressants de cette histoire, cet après-midi, c'est d'abord que les habitants de Nazareth croyaient tout savoir de Jésus. Le Jésus qu'ils connaissaient ne pouvait pas changer leur vie. Il était comme eux. Je raisonne comme les Nazaréens. Et c'est une des premières raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu croire qu'il était le Fils de Dieu aussi. Ils le connaissaient depuis près de 30 ans. Et vous savez, quand on connaît une chose depuis 30 ans, quand on sait que cette chose est vraie, on a du mal à s'en défaire. On a du mal à croire qu'il y a autre chose aussi qui est vrai. Si pendant 30 ans vous avez cru, vous avez été convaincu de quelque chose, il est difficile de changer d'opinion. Bon, je sais que la plupart d'entre nous n'ont peut-être pas 30 ans. Hein. Quels sont ceux qui ont plus de 30 ans? Levez la main. C'est pas pour ça que vous êtes vieux, hein, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 30 ans parmi nous? Levez la main. Oui? Oui, bon, nous sommes minoritaires. Et vous savez, nous sommes en forme quand même. Hein. C'est pas l'âge qui compte. C'est pas l'âge. 30 ans d'expérience. 30 ans qu'il connaissait Jésus comme cela. Il pensait tout savoir de lui. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient connu Jésus tout petit et qu'ils se disaient, cet homme qu'ils avaient connu tout petit ne pouvait pas leur dire ce qu'ils avaient à faire. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais peut-être 25 ans à l'époque, je commençais déjà à prêcher, et puis il avait été question que je revienne dans ma ville natale, la ville qui m'avait vu grandir aussi, où j'avais passé les 20 premières années de ma vie, et certains disaient peut-être que Philippe pourrait devenir notre pasteur. Et je me souviens qu'un chrétien de l'église, un ancien, comme on dit, qui avait une soixantaine d'années, avait dit un jour, il ne me l'avait pas dit à moi, il l'avait dit devant mon père, « Jamais je n'accepterai qu'un jeune que j'ai connu tout petit puisse diriger l'église dont je suis membre. » Attention, mes amis, il y a des gens qui sont comme cela. Et les Nazaréens étaient comme cela. Jamais ce jeune homme que nous avons connu arrivé ici à 2 ans, qui a grandi avec nos enfants, qui a appris son métier, que nous connaissons comme un bon charpentier, c'était certainement un bon charpentier, Jésus faisait tout bien, il s'appliquait dans tout ce qu'il faisait, comme dans son ministère plus tard. Jamais, se disaient les Nazaréens, ce jeune homme ne pourra nous dire ce que nous avons à faire. Et alors, pour cette deuxième raison, Jésus n'a pu faire là aucun miracle. Et puis il y avait une troisième raison qui n'est pas écrite dans notre texte, mais qui est écrite dans les autres évangiles, ou plutôt un petit peu avant dans l'évangile, c'est que Jésus avait commencé son ministère ailleurs. Et ailleurs, il avait accompli des miracles. Ailleurs, il avait fait de grandes choses. Et les Nazaréens, quelque part, étaient jaloux. Sans doute qu'il n'ait pas commencé cela parmi eux. La jalousie. C'est encore un obstacle à la foi. Alors, j'ai regardé dans la Bible, et pas dans toute la Bible, mais j'ai noté aussi quelques autres choses qui peuvent nous empêcher, parce que cela peut être aussi un enseignement pour nous. Il y a bien d'autres choses qui peuvent nous empêcher de recevoir Jésus, de recevoir sa parole telle qu'elle est. Par exemple, il peut y avoir la souffrance. Nous lisons par exemple dans le livre de l'Exode, que lorsque Moïse est revenu en Égypte pour chercher le peuple de Dieu et pour le libérer de l'esclavage d'Égypte, à un certain moment, les Israélites n'ont pas cru à ce que Moïse leur disait parce que leur cœur était devenu dur, parce qu'ils avaient beaucoup souffert et depuis longtemps. Nous voyons que la souffrance peut endurcir le cœur et nous empêcher de croire à ce que Jésus est capable de faire dans notre vie. La souffrance, et je l'ai dit, le temps aussi, le temps qui passe. Rappelez-vous cet homme dans l'évangile qui était paralysé partiellement au bord de la piscine de Bethesda et qui, lorsque Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Il était malade depuis 38 ans, Jésus le savait. Et lorsque Jésus lui a posé cette question, il a dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Parce qu'il ne voyait que ce moyen-là. Le moyen, j'allais dire traditionnel, qui malheureusement ne concernait que le premier qui tombait dans l'eau, quand l'eau était remuée. Parfois, comme dans le cas des Nazaréens, c'est notre connaissance ou ce que nous croyons savoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Nazaréens croyaient tout savoir de Jésus. Vous savez, cela peut même arriver à nous, croyants, nous, chrétiens. Parfois, nous pensons que nous savons tout de Jésus, surtout si nous le connaissons depuis longtemps. Si nous sommes nés dans une famille de chrétiens, ou comme moi, si vous avez déjà un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, et qu'on connaît Jésus depuis son enfance, on peut se dire parfois, je connais tout de Jésus, qu'est-ce qui pourrait arriver que je ne sache pas? Et cela peut endurcir le cœur, faire que le cœur ne s'attend pas à ce que Jésus fasse de grandes choses. J'ai cité, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que le temps manque, parfois ça peut être la tradition. C'était le problème des chefs religieux du temps de Jésus, parce qu'ils étaient attachés à leur tradition, à leur façon d'interpréter la Bible, à toutes ces règles qu'ils avaient ajoutées à l'Évangile, à la Bible. Alors à cause de tout cela, ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui allait démolir leur tradition. Et alors ils ont rejeté Jésus. Vous savez, parfois, et je dirais même parfois, et je terminerai par cela, il y a aussi la famille parfois, l'emprise de la famille. qui nous empêche de nous approcher de Dieu, surtout quand on a grandi dans une famille ou quand on fait partie d'une famille qui n'est pas de la même confession de foi que nous. C'est très difficile. Et je terminerai par cet autre obstacle qui peut être la peur du changement. Parce que Jésus, mes amis, quand il entre dans une vie, apporte le changement. Pas un petit changement, un grand changement. J'ai moi-même été élevé par des parents chrétiens, mais mes parents n'ont pas toujours été chrétiens. Ils se sont convertis avant même que je sois né, en 1947, hein, vous voyez que c'est pas récent, je suis né quelques années plus tard. Mais avant d'être converti, mes parents avaient vécu dans la difficulté. Et lorsqu'ils ont découvert Dieu, ils étaient sur le point de se séparer. J'ai dit un jour cela et j'ai dit, vous vous rendez compte ce que vous auriez manqué? Je ne serais jamais né si mes parents s'étaient séparés. Hein, vous aurez quand même manqué quelque chose. Hein. Bon, alors je suis né parce que mes parents ont rencontré Dieu au moment où ils allaient se séparer. Dieu a transformé leur vie. Et non seulement il a transformé leur vie, il a guéri mon père, miraculeusement, il a guéri mon grand frère, miraculeusement, alors qu'il était condamné par la médecine. Il devait mourir dans les 48 heures. Et aujourd'hui, avant-hier, il a fêté ses 62 ans. Il devait mourir, d'après les médecins, à l'âge de 6 mois. Alors, 62 ans moins 6 mois, ça fait 61 ans et demi. Un miracle qui tient 61 ans et demi, c'est du sérieux. Et cela, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, et c'est sur cette note d'espoir que j'aimerais terminer. Il y a eu cependant, à Nazareth, des gens qui avaient connu Jésus tout petit, qui avaient vu Jésus grandir, qui l'avaient vu apprendre un métier, charpentier, qui l'avait vu exercer ce métier, qui peut-être, comme beaucoup d'habitants de Nazareth, étaient allés chez lui pour faire fabriquer quelques meubles ou quelque chose en bois. Et ces quelques personnes ont réfléchi en entendant Jésus prêcher. Lorsque Jésus a dit dans cette synagogue, comme cela nous est dit dans l'évangile de Luc, je suis venu afin que ceux qui ont le cœur brisé puissent être libérés. Je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. En écoutant cela, ces gens-là ne se sont pas dit, c'est Jésus qui dit cela, mais on le connaît, on a déjà lu ces paroles. Bon, on sait ce que ça veut dire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'Ecclésiaste. Ces gens-là ne se sont pas dit cela. Ils ont dit, c'est curieux. Jésus ne parle pas comme d'habitude. Il lui est arrivé quelque chose. Vous savez, quand on connaît quelqu'un depuis longtemps et qu'on le voit revenir, pas longtemps après, quelques mois après, mais d'une manière différente, on se dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez lui qu'il n'y avait pas avant. Bien sûr, Jésus avait été revêtu du Saint-Esprit entre-temps. Et c'est cela qui faisait toute la différence. Jésus avait été revêtu du Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'il faisait ces miracles. C'est pour ça qu'il pouvait apporter beaucoup de choses. Et lorsque ces quelques personnes, parmi d'autres, ont commencé à réfléchir et à se dire, bien sûr c'est Jésus, mais ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus habituel. C'est un Jésus qui est vivant, qui est puissant, qui parle d'une manière différente de ce qu'on a toujours entendu parler. Ce n'est plus l'homme normal que nous connaissions, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est bien sûr la puissance de Dieu. Alors la Bible dit, et c'est ça, c'est là la grande note d'espoir, et c'est sur cela que je terminerai cet après-midi, il ne put faire là aucun miracle, à part qu'il imposa les mains à quelques malades, et il est guéri. Jésus est celui qui peut apporter le changement dans notre vie. Il est celui qui peut délivrer les malades. Il est celui qui peut venir en aide à ceux qui ont des problèmes. Il est celui qui peut apporter du nouveau dans notre vie. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Que son nom soit béni.